France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir un homme qui se définit lui-même comme une féministe. Oui, vous avez entendu, je ne me suis trompée ni d'article ni de genre. L'écrivain, historien et chercheur Yvan Jablonka publie « Des hommes justes » aux éditions du Seuil, un ouvrage dans lequel il fait le procès du patriarcat et plaide pour de nouveaux rapports entre les sexes, 2 ans après MeToo. Un livre dans lequel il plaide surtout pour que les hommes changent. On verra d'ailleurs ce qui l'a poussé à une telle démarche. On parlera à cette occasion de ses autres livres, de son histoire personnelle également, et de l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis. Juste avant 19h, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, nous irons en Vendée, où le maire d'Essart en Bocage a pris un arrêté municipal pour demander à ses administrés de sourire cette semaine. Sandrine Houdin est allée voir sur place ce que cela avait donné. À 19h, le journal de Sébastien Paour. À 19h20, au téléphone sonne, prévention, dépistage, diagnostic, comment mieux lutter contre le cancer du sein. Un cancer qui a touché près de 59 000 femmes l'an dernier en France et fait 12 000 morts. On en parle à l'occasion d'Octobre Rose. Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Yvan Jablonka.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être sur France Inter ce soir avec nous jusqu'à 19h. Vous êtes historien, écrivain, chercheur, romancier, éditeur, professeur d'histoire contemporaine à Paris 13. Vous publiez donc au Seuil un livre intitulé « Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités ». Un livre dans lequel vous dénoncez les privilèges de genre et plaidez pour un monde plus heureux avec des femmes libres et des hommes justes. Un livre, je le disais, dans lequel vous écrivez « Je suis un homme contre le pouvoir masculin, je suis une féministe ». Pourquoi une féministe, Yvan Jablonka ?
J'ai voulu faire un jeu sur le genre. Je trouve que c'est rigolo. C'est comme une espèce de pirouette qui montre qu'on peut pratiquer la désobéissance de genre. Alors voilà, j'ai dit que j'étais une féministe, mais
parce qu'un féministe, ça nous irait aussi parfaitement.
Bien sûr, mais au-delà de ça, je voulais bien sûr marquer une solidarité. Et je pense qu'il faut réinventer des solidarités au-delà du fait qu'on ait des hommes ou des femmes. Donc je voulais aussi indiquer, voilà, un hommage, une solidarité, parce que évidemment, mon livre se fonde sur des décennies, des siècle de réflexion féministe, et je voulais le dire de cette manière.
Ce que vous nous dites en gros, c'est qu'il est temps que les hommes se bougent. C'est un peu ça.
Oui, exactement. Mon livre, c'est un livre sur la domination masculine et aussi les moyens d'en sortir. Donc j'ai fait d'un côté une enquête historique sur les sociétés patriarcales, et puis de l'autre, je propose une espèce de traité politique ou moral pour une nouvelle utopie. Et cette nouvelle utopie, ce serait des masculinités compatibles avec les droits des femmes. Et donc sur ce sujet, je voulais intervenir en tant qu'homme dans un domaine où beaucoup d'hommes restent silencieux, malhabiles, parfois même hostiles. Je voulais donc intervenir en tant qu'homme pour penser le masculin et même politiser le masculin.
Vous pensez que le mouvement MeToo a joué un rôle très important ces deux dernières années?
Le mouvement MeToo a joué un rôle important parce que c'était, au-delà de la dénonciation des violences physiques et sexuelles, c'était une réflexion sur les rapports de pouvoir qui traversent toutes les sphères sociales. Et donc, il a été assez souligné la manière dont le mouvement MeToo est et restera un jalon important pour le féminisme, les conquêtes du féminisme au XXIe siècle. Maintenant, du point de vue des hommes, c'est plus compliqué. Moi, j'ai plutôt été frappé par le silence des hommes et j'ai voulu précisément sortir de ce silence et même faire sortir les hommes de ce silence parfois obtus, parfois hostile, parfois involontaire. Alors je me suis demandé d'où vient mon pouvoir, d'où vient notre pouvoir, et je me suis aussi demandé pourquoi ne veut-on pas l'égalité? Pourquoi on ne veut pas l'égalité? Pourtant, l'égalité, c'est un mot qui est au fronton de nos mairies. Mais en fait, on voit bien que les hommes ne veulent pas l'égalité, et j'ai essayé de me demander pourquoi.
Mais surtout, vous l'avez dit, il y a une première partie historique très importante. Vous n'êtes pas historien pour rien, Yvan Jablonka. Mais peut-être que, avant de se demander pourquoi les gens ne veulent pas l'égalité, peut-être se dire, est-ce qu'on est conscient de cette domination masculine? C'est une vraie question.
C'est une vraie question parce que la domination masculine, ça renvoie à des privilèges individuels, et ça, chaque homme a une vie qui est globalement plus facile que celle des femmes. La masculinité, ça reste aujourd'hui un atout en France et dans le reste du monde. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que la domination masculine, ce que j'appelle après d'autres le patriarcat, c'est aussi un système social. Et en tant que tel, le système social, parfois, on le voit pas, il est au-dessus nous, on en est un petit peu les agents, les témoins, et parfois on le sent pas. Alors prenons un ou deux exemples. En France, comme vous le savez, chacun a un numéro de sécurité sociale. Le mien c'est 1, ça commence par 1, le mien.
Le vôtre, et le ça, mien, commence... ça commence par 2.
Et le vôtre, ça commence par 2. Mais c'est tout un programme, ça, vous voyez. Et évidemment,
et sur la feuille d'impôt, je suis numéro 2 aussi.
Exactement.
Mais non, mais tout est comme ça, on est d'accord.
Personne, je demande pas la sécurité sociale. Vous voyez, c'est pas l'urgence, mais voilà, malgré tout. Ou par exemple, aujourd'hui, un mariage traditionnel à l'église pour une femme, elle entre au bras de son père, elle en ressort au bras de son mari. Bref, elle a changé de main, masculine. Et ça, c'est vraiment l'incarnation du patriarcat. Et je précise que dans toutes les religions, c'est pareil.
Alors, historiquement, il y a cette domination. Et vous appelez, Yvan Jablonka, à une sorte de révolution. Parce que vous écrivez « À quand une nuit du 4 août où collectivement les hommes renonceraient à leurs privilèges ?»
Oui, et j'utilise aussi ce terme, ces termes révolutionnaires, parce que le féminisme date de ces années-là, de la fin du XVIIIe siècle. C'est un moment où les hommes, ce qu'on a appelé les révolutionnaires, se disaient « à bas le despotisme, à bas les privilèges, à bas l'aristocratie ». Et puis, certaines femmes se sont dit « mais, chers messieurs, de quoi parlez-vous ? Parlez-vous du despotisme dans le mariage ? Parlez-vous des privilèges masculins ?» Et là, les hommes étaient en fait un peu gênés parce qu'ils parlaient pas vraiment de ça, ils parlaient d'autre chose. Alors, bien entendu, les valeurs révolutionnaires sont sans doute les plus hautes de l'esprit humain depuis le XVIIIe siècle. Mais enfin, le féminisme est né aussi de cette revendication et même de ce scandale. C'est-à-dire que au moment où on dit liberté, égalité, bah en fait, c'est pas pour tout le monde. Et notamment, c'est pas pour les femmes. D'où un scandale. Et c'est là que naît le féminisme qui va consister à combler les lacunes entre une situation de droit et une situation de fait.
Et évidemment, comme toute révolution, eh bien, celle-ci entraîne des résistances, Yvan Jablonka, des réactions qu'on appelle masculinistes, c'est ça ? Des réactions masculinistes ?
Oui, je pense qu'il y a un certain nombre d'hommes, c'est heureusement une minorité, ça peut être une minorité agissante, violente, sur les réseaux sociaux ou même parfois dans la société. Enfin, il y a même des crimes commis au nom du masculinisme. Et ce sont donc une minorité d'hommes qui se sentent un petit peu dépossédés par les conquêtes du féminisme et l'idée que les femmes ne font que réclamer l'égalité, la liberté et leurs droits, tout simplement. Et donc,
enfin, vous dites minorité, n'empêche que vous mettez la montée des populismes dans cette catégorie. Et ça, ce ne sont pas forcément des minorités.
Bien sûr. Alors, le populisme, c'est pas directement masculiniste. Je dirais plutôt que c'est viriliste. Le populisme, c'est l'idée que un leader qui va se montrer torse nu ou à la tête de son armée vient incarner comme ça un peuple avec les valeurs de militarisation de la société, de dureté en politique, de mépris pour la faiblesse, pour la supposée faiblesse, et notamment toute opposition politique ou qu'elle s'exprime. Et ça, évidemment, le populisme, c'est une mauvaise nouvelle pour les droits des femmes. Et à cet égard, ce qu'on voit dans le monde entier, sur tous les continents, c'est quelque chose qui doit nous inquiéter. Et plus généralement, j'ai voulu aussi réfléchir sur ce que j'appellerais l'archaïsme masculin. Il y a des hommes, et là pour le coup, je crois qu'il y en a beaucoup, qui vivent encore dans l'ancien monde, c'est-à-dire un monde précisément de privilèges et d'aristocratie. Et à cet égard, les femmes, et notamment les femmes qui se sont battues pour l'égalité, elles incarnent la modernité politique au sens des révolutionnaires.
Comment fait-on, Yvan Jablonka, pour lutter contre le patriarcat, pour le dérégler, le patriarcat ? C'est le terme que vous employez. Il y a l'action publique avant toute chose quand même ?
Moi, je pense qu'il faut faire un aller-retour entre le particulier et le général. Le particulier, c'est nos vies. Le fait qu'on est quand même capable, dans nos couples, dans nos familles, au bureau, dans la rue, de vivre l'égalité. C'est-à-dire vraiment de se saisir à bras-le-corps de ces questions brûlantes que sont l'égalité, la liberté, la manifestation, le respect du consentement, etc. Et puis, il y a bien sûr, au-delà de cette morale du masculin, il y a aussi des mesures systémiques, parce que on ne peut pas dérégler un système sans le remplacer par un autre, ou en tout cas sans en proposer un autre à la place. D'où la nécessité de mesures systémiques. Alors ça peut être un agenda féministe à l'échelle mondiale, par exemple, combattre toutes les pathologies du masculin, et notamment la masculinité criminelle, sécuriser les droits des femmes dans toutes les sphères. Et puis il y a des mesures un petit peu plus ponctuelles ou sectorielles, mais qui ont leur importance. Par exemple, le congé parental, hein, et qu'on proposerait bien bien sûr au père.
L'éducation sexuelle, vous le citez.
L'éducation sexuelle et puis même l'éducation tout court. Est-ce que le destin des filles, c'est de faire des régimes minceurs, de plaire aux hommes et ensuite de materner? Est-ce que le destin des garçons, c'est le modèle de la virilité obligatoire? Ça, c'est des questions qui sont décisives et qui se posent aussi bien dans la famille qu'à l'école. Et puis, on peut aussi imaginer une réorganisation du monde de l'entreprise, entreprise qui, historiquement, a été pensée par et pour les hommes. Alors, par exemple, ça pourrait être imposer la mixité dans les comités exécutifs ou susciter systématiquement des candidatures de femmes au poste de manager et au-delà. Et puis,
Vous savez qu'on y réfléchit quand même à tout ça,
bien sûr.
Les choses évoluent quand même.
Bien sûr, mais d'abord, pas dans tous les pays, premièrement. Oui. Et moi, j'essaye d'avoir une vision mondiale parce que, après tout, la situation en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest est plutôt bonne au niveau mondial, même si, bien sûr, faut pas se donner de satisfecit, et même si, bien sûr, faut pas oublier le scandale des inégalités, des violences qui demeurent. Mais au niveau mondial, l'Europe occidentale et du Nord fait globalement figure de bonne élève, si vous me permettez cette bizarre expression.
Ce livre s'adresse à qui avant toute chose, Yvan Jablonka? Aux hommes?
Disons que c'est vrai que j'ai écrit ce livre pour les hommes, mais je me doute bien que je serai d'abord lu par les femmes. Alors j'ai un petit peu cette...
Vous doutez, pas forcément.
Pas forcément, mais je vois bien, par exemple, quand je fais des rencontres dans les librairies ou à d'autres moments, dans d'autres lieux, je vois que c'est plutôt des femmes qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait des décennies qu'elles sont sensibles individuellement et collectivement à ces questions. Mais bien entendu, c'est un livre pour les hommes et notamment pour des hommes plus jeune que moi. Je sens bien que moi, je suis dans une génération intermédiaire. Moi, je suis, pour moi, l'égalité, c'est pas quelque chose de complètement naturel. Et à cet égard, j'ai encore beaucoup de progrès.
Vous avez encore du chemin à faire.
Ça, c'est sûr. Mais je sens bien que dans la génération qui vient juste après moi, des hommes qui ont 20, 30 ans, ils me rendent optimiste. Je sens qu'il y a des choses qui bougent dans leur relation avec les femmes ou dans les relations, dans la manière dont ils conçoivent politiquement le masculin vis-à-vis de questions comme qu'est-ce que c'est que l'homophobie, qu'est-ce que c'est que l'égalité dans le couple ou ailleurs. Et à cet égard, ça me rend très positif.
Alors les réactions, on va dire peut-être dans la presse, ont été diverses. Le Figaro a parlé d'un acte de contrition moralisateur, mais par exemple le magazine Elle, lui, a été séduit et dire ce livre, il faut l'offrir à tous les garçons que l'on aime.
Oui, j'ai été très largement soutenu. Enfin bon, le livre marche bien, ça veut dire aussi qu'il a trouvé son public. Et puis ça veut dire aussi, je crois, qu'on est dans une question qui est incontournable. Je ne dis pas que mon livre est bon, je dis qu'il est nécessaire. Et je crois qu'il pose des questions qui sont devenues incontournables. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme homme? Qu'est-ce qu'un mec bien? Qu'est-ce qu'on attend de nos masculinités? Comment on a envie d'élever nos garçons? Et aussi bien sûr nos filles. Et je crois que ça, c'est des questions que se posent les parents, les enseignants, des managers, des hommes politiques. Et en ce sens, c'est un débat fondamental.
Vous avez trois filles, Yvan Jablonka. C'est pas par hasard que vous avez fait ce cheminement?
Non, je fais partie du club de pères de trois filles. Et c'est vrai que j'ai aussi écrit ce livre pour elles. J'aimerais bien voir un jour un monde où nos garçons seraient justes et nos filles libres. Ou pour le dire autrement, voilà, un monde où on réinventerait le masculin de telle sorte qu'il soit compatible avec les droits de toutes, mais aussi de tous.
Vous dites, j'essaie d'être un bon père, je ne suis pas sûre d'être un bon mari.
C'est vrai. Je crois que j'ai pas mal de progrès encore à faire, et en particulier parce que je suis pas née avec l'égalité dans le sang. C'est vrai que la justice de genre n'est pas dans mon ADN, et c'est aussi pour ça que lutter contre le patriarcat en tant qu'homme, c'est aussi lutter contre soi-même. Et c'est pour ça que je propose cette notion de contre-masculinité, qui est un petit peu une qualité de vigilance individuelle et collective, pour vérifier si à chacun de nos gestes, de nos paroles, de nos actes, on est en conformité avec cette justice de genre.
Eh ben merci beaucoup pour ce livre, Yvan Jablonka. On va évidemment en reparler, et puis notamment de ce qui vous a conduit à l'écrire, parce qu'il y a bien d'autres raisons encore. Mais d'abord, on passe à l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hila.
Quatre Français sont tombés ce jeudi 3 octobre.
Sidération à la préfecture de police de Paris où un fonctionnaire de la direction du renseignement a poignardé à mort quatre de ses collègues avant d'être abattu.
Pas de revendications, mais des signes de radicalisation qui auraient dû alerter. Alors le président lance un appel à la vigilance.
Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion, mais bien contre son dévoiement et ce qui conduit au terrorisme.
Pas de signalement dans ce service pourtant chargé du renseignement.
C'est un dysfonctionnement d'État.
Toute la semaine, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est retrouvé sur la sellette.
Mais j'ai même pas envie de répondre à ceux qui demandent ma démission.
Le déni et la banalisation qu'a entretenu le ministre de l'Intérieur ne sont pas supportables et acceptables.
Le député LR, Éric Ciotti.
Monsieur le Premier ministre, les Français doutent.
Je suis le chef du gouvernement et j'assume, au nom du gouvernement, tout ce qui a été fait dans l'État.
Un camouflet pour Emmanuel Macron. Le Parlement européen a retoqué Sylvie Goulard, la candidate présentée par la France pour la Commission européenne. Le président français avait pourtant tout prévu.
Moi, je ne comprends pas comment, quand la présidente de la Commission, qui a une discussion avec les trois présidents de groupe, se mettent d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j'ai besoin de comprendre. Donc je vais d'abord demander. Donc moi, je suis très détendu. Ce qui m'importe, c'est le portefeuille.
Très détendu, faut le dire vite.
Mais j'ai besoin de comprendre. Il faut qu'on m'explique.
Explication avec l'eurodéputé vert Yannick Jadot.
Les parlementaires européens veulent de l'éthique. Ils ne supportent pas l'ingérence des États dans leur processus de désignation. Le président Macron a été sanctionné par le Parlement européen.
L'idée, c'est de bloquer le centre commercial d'Italie 2, qui pour nous représente le consumérisme, qui cause la perte d'écosystèmes et qui met en danger la vie sur Terre.
Un centre commercial occupé, des rues coupées. Les militants du groupe Extinction Rébellion sont passés à l'action cette semaine à Paris comme dans d'autres pays.
Cette démarche, on en fait tous les samedis. Qu'est-ce qui change? Rien.
Moi, j'ai l'éducation, j'ai de l'argent. Enfin, la société, clairement, elle est faite pour moi. On a les moyens d'être informés, donc on n'a pas le droit d'être aveugle.
Le gouvernement est resté prudent face à cette jeunesse adepte de nouvelles formes d'action, mais pas l'ancienne ministre de l'écologie et ambassadrice des pôles, Ségolène Royal.
Il y a une instrumentalisation de l'écologie par ces groupes violents. Il faut les réprimer très rapidement.
Ces manifestations m'ont formée. Quand on a 12 ans, aller dans la rue et se battre pour quelque chose, c'est pas anodin.
Bon, là, on a changé de sujet. Cette jeune militante, elle a fait ses armes lors de la manif pour tous, il y a quelques années. Dimanche, elle était de retour sur le pavé parisien pour protester contre la PMA pour toutes.
C'est pas dans cette société que j'ai envie de vivre, ça m'inquiète pour le futur de mes futurs enfants.
Papa, tu es fantastique. Et papa, rien ne pourra te remplacer. J'ai besoin de ta force.
Si on est une femme, on sera jamais un père. Même avec toute la meilleure volonté du monde, on peut donner tout son amour, mais on sera jamais un père. Ça, c'est absurde.
Liberté, égalité, fraternité.
À l'Assemblée, fin de l'examen du projet de loi qui restera dans les annales pour cette mise au point de la députée En Marche, Aurore Berger.
Ni ici, ni aujourd'hui, ni demain, nous n'empêcherons de quelconques parents hétérosexuels de vouloir concevoir un enfant de manière charnelle.
Ouf, nous voilà rassurés. Et encore merci à Céline Hila. Une semaine en France, toujours en compagnie de l'historien Yvan Jablonka. Vous avez souri hein, en entendant Aurore Berger, Yvan Jablonka.
Bah oui, c'est vrai, on est rassuré si elle ne nous empêche pas de faire l'amour pour faire des enfants.
Parce qu'on peut être pour l'égalité et puis aimer combattre ensemble, hein, c'est quand même le, ce qui ressort de votre ouvrage. Sinon, qu'est-ce que vous avez retenu de cette actualité qu'on vient d'entendre? Si quelque chose vous a intéressé particulièrement?
Bah, c'est vrai que le débat sur la PMA pour toutes, c'est un débat important. Moi, personnellement, j'y suis favorable parce que, d'abord, c'est une situation de fait. Il y a des familles homoparentales et tout se passe très bien, les enfants sont heureux, jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour moi, le législateur doit accompagner les mouvements de la société et pas l'inverse. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est un débat important et j'y suis favorable. Et puis, plus largement, un des projets que je propose avec est fondé sur cette notion de justice de genre. Et la justice de genre consiste à redistribuer le genre, de même que la justice sociale consiste à redistribuer les richesses. Donc, redistribuer les rôles, les responsabilités, les pouvoirs au sein de la famille. Eh ben, je trouve ça plutôt favorable. Je trouve ça plutôt intéressant et j'y suis favorable. Je pense que on va vers une société plus riche et plus diverse.
Vous proposez notamment dans votre livre une masculinité de la grossesse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, Yvan Jablonka?
Oui, bah, par exemple, quand une femme est enceinte, enfin, quand son conjoint, généralement, comprend pas bien, ou alors essaye de manière plus ou moins adroite ou maladroite de l'accompagner. Et puis, après la grossesse, après l'accouchement, voilà, l'accouchement, c'est toujours un moment un peu critique, même si c'est un moment aussi heureux. Ensuite, viennent des fatigues, des, voilà, parfois des moments de déprime. Bon, donc, ce que je propose, cette proposition un peu psychologique de masculinité de grossesse consiste à être complètement solidaire de la femme qui vient d'accoucher ou qui est enceinte. Et je pense qu'on pourrait dire un petit peu la même chose des règles. Je pense que les règles, il y a une espèce de tabou. Alors les hommes en parlent soit avec gêne, soit avec ironie, soit en ricanant. Bon, enfin, c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent à la moitié de l'humanité. Donc moi, je serais pour en parler librement, de manière toute simple. Et puis voilà, être plutôt du côté de celles qui sont pas bien au moment où ça arrive.
Un petit mot des violences faites aux femmes, Yvan Jablonka. Hier soir, l'Assemblée a voté à l'unanimité une proposition de loi d'un député LR, Roland Pradier, sur le bracelet anti-rapprochement pour éloigner le conjoint violent. On en est à 117 féminicides depuis le début de l'année. Et si j'insiste sur ce mot, c'est parce que c'est un mot que vous avez employé avant d'autres, d'ailleurs. Je pense au livre que vous avez écrit, Laetitia, hein, ou La fin des hommes. C'était sur ce terrible drame de cette jeune Laetitia Perret, assassinée en Loire-Atlantique en 2011. C'est rassurant que ce terme commence à passer dans le langage courant.
Oui, c'est vrai que j'ai voulu utiliser ce terme de féminicide dans mon livre Laetitia, qui est paru un an avant le mouvement MeToo. Et ce livre, c'était aussi le portrait de notre société. Voilà, une société où les femmes se font couramment harceler, frapper, injurier, violer, puis parfois tuer. Et en ce sens, ce livre, c'était aussi un hommage à toutes les Laetitia du monde. Et donc, quand je vois le taux de féminicide et même de violence physique et conjugale, sexuelle également, je me dis que c'est pas seulement un problème de société, c'est un échec de société. Alors bien sûr, il faut prendre des mesures d'urgence, c'est-à-dire mettre les femmes en sécurité, évincer l'auteur de violence, mieux former les personnels de police, de gendarmerie, de justice. Mais je crois qu'il faut aussi entamer une réflexion de fond sur le masculin. Il y a des masculinités criminelle. Le masculin qui tue, ça existe. Alors bien entendu, c'est pas la majorité des hommes, mais il y a des formes de violence masculine, et je crois qu'on peut pas éradiquer les violences physiques ou sexuelles sans prononcer des mots comme domination masculine, machisme ou pathologie de la masculinité. Voilà. Donc je pense que c'est aussi important de prendre le...
Ce qu'on entend quand même de plus en plus, hein. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là.
Il y a absolument une prise de conscience, mais c'est pas simplement un traitement social et judiciaire. C'est aussi une réflexion de fond sur le fait que certains hommes considèrent que la masculinité va de pair avec l'agressivité, la violence, la force, la dureté. Et voilà, c'est aussi ça qu'il faut regarder en face.
Un petit mot à Yvan Jablonka de votre position vous êtes historien, vous êtes chercheur, écrivain, romancier. Parfois, on a un petit peu de mal à trouver la frontière entre tout ça. Je sais pas d'ailleurs si c'est absolument nécessaire, mais est-ce que c'est le rôle d'un historien de s'engager comme vous le faites là aujourd'hui ?
Alors, si vous voulez que je clarifie tout ça, d'abord, je dirais que je suis pas romancier. Je suis historien, je fais des sciences sociales, ça c'est ma raison d'être.
Et vous indirectement, avez pas écrit un roman sous pseudonyme ?
Si, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison. J'ai écrit un roman il y a 15 ans, mais bon, de là à dire que je suis romancier, faut pas. Voilà. Je suis historien, je fais des sciences sociales, c'est ma raison d'être. Et indirectement, je suis écrivain parce que faire de l'histoire, c'est aussi l'écrire. Et à cet égard, l'histoire est une littérature contemporaine. Je l'ai dit, je l'ai fait dans un certain nombre de livres, Laetitia notamment. Donc mon rôle, c'est...
Vous dites je suis écrivain en sciences sociales.
Oui, je suis écrivain en sciences sociales, c'est-à-dire que je fais des sciences sociales, mais j'essaye d'en faire autrement. C'est-à-dire que j'essaye notamment d'incarner un raisonnement, une méthode dans un texte, et c'est une manière de renouveler et les sciences sociales et la littérature. Donc oui, je me sens à l'aise dans ces deux domaines, mais je me trompe pas de priorité. Je fais d'abord des sciences sociales, et faire des sciences sociales, eh bien, c'est penser le monde, et plus exactement, penser ce qui nous arrive. La Shoah m'est arrivée, mais aussi nous est arrivée. La mort de Laetitia nous est arrivée. Et j'oserais même dire que mes vacances en camping-car nous sont arrivées. Alors, on sourira peut-être, mais je veux dire par là que les vacances que j'ai passées en camping-car dans les années 80-90 du XXe siècle, c'était aussi une certaine forme de construction sociale. L'été, la Méditerranée, le voyage, l'intégration familiale. Et ça, bien sûr, ça nous renvoie au portrait d'une société à la fin du XXe siècle. Alors, mon rôle en tant que chercheur en sciences sociales, c'est de penser le monde, de le comprendre et de prouver ce que je dis avec des sources. Et parmi ces sources, des archives, des témoignages, bref, pas grand-chose d'original à cet égard.
Voilà, l'histoire et puis l'histoire familiale, vous avez à peine évoqué, ça c'est encore autre chose. On va en parler dans un instant, Yvan Jablonka. Le temps d'écouter Jeanne Chéral, Le Feu aux Joues, extrait de son nouvel album, L'An 40. Jeanne Chéral, choix musical signé Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de l'historien Yvan Jablonka. On va parler maintenant, Yvan Jablonka, de votre parcours à vous, de votre histoire. Parce que, d'ailleurs, vous le dites bien, faut pas faire la distinction entre l'histoire avec un grand H et puis l'histoire personnelle. Vous dites, la distinction entre nos histoires de famille et ce qu'on voudrait appeler l'histoire avec sa pompeuse majuscule n'a aucun sens.
Je crois que faire de l'histoire, c'est aussi se poser la question de notre historicité. On est traversé par des courants historiques, sociaux, politiques, la manière dont on a été élevé, notre histoire familiale. Parfois, des familles ont été traversées par des guerres, des génocides, l'immigration, la pauvreté. Bref, on est en permanence traversé par l'histoire comme par un rayonnement. Et faire de l'histoire, je crois, c'est se poser cette question. Alors, on pourrait croire que je dis des choses très originales, mais enfin, quand on remonte il y a 2500 ans et qu'on voit comment raisonnait Hérodote, un des pères fondateurs de l'histoire, on voit que c'est exactement ça. Hérodote, qui s'intéressait à cette espèce de guerre mondiale entre les Grecs et les Perses, c'est un événement qu'il a vécu personnellement, et c'est la même chose pour Thucydide, une ou deux générations plus tard. Donc, j'ai voulu effectivement m'interroger sur les grands événements de ma vie, de nos vies. Bref, je fais de l'histoire.
Voilà, alors vous êtes né, Yvan Jablonka, à Paris en 1973. Vous avez donc 46 ans, enfin je crois que vous les aurez dans quelques jours. Vous avez grandi à Paris, lycée Buffon, Cagne à Henri IV, Normale Sup, agrégation d'histoire. Votre thèse a porté sur les enfants de l'assistance publique sous la Troisième République. Eh bien ça, c'est déjà pas un hasard, Yvan Jablonka, parce que dans votre avant-dernier livre qui s'intitule Camping-car, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez raconté vos vacances quand vous étiez enfant avec vos parents et votre frère. Ces vacances, vous écrivez, c'était aussi l'occasion d'évoquer des souvenirs tronqués. Je me souvenais de gens que je n'avais pas connus.
J'ai toujours su que mes grands-parents avaient été assassinés, et quant à mes autres grands-parents que j'ai connus, eux, ce sont des survivants, puisque comme juifs, ils ont traversé toute l'occupation. Comme disait ma grand-mère avec son humour particulier, c'était ma bonne étoile. Enfin, l'étoile, elle l'avait d'abord sur la poitrine. Et donc, c'est sûr que ça, je l'ai vécu.
Ces grands-parents paternels, on va le dire en deux mots, hein, c'est, vous leur avez consacré un livre, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, paru en 2012. Vous avez voulu quoi, à travers cette histoire, redonner une existence ?
J'ai voulu raconter leur histoire. D'abord parce qu'on ne savait pas grand-chose sur eux, et même mon propre père était assez ignorant du sort de ses propres parents, et puis même de leur histoire. Et donc, on a fait cette enquête familiale, d'une certaine manière.
Ces grands-parents qui venaient de Pologne, qui avaient fui la Pologne parce qu'ils étaient communistes, qui sont venus en France, et qui ensuite ont été rattrapés par l'antisémitisme, les lois anti-juives, le nazisme et la déportation à Auschwitz.
Mes grands-parents paternels ont passé toute leur vie dans la clandestinité. D'abord en tant que communiste dans la Pologne des années 20 et 30, ensuite en tant qu'étrangers illégaux dans la France de la Troisième République finissante, et enfin, bien sûr, comme juifs sous le régime de Vichy et dans l'Europe nazie. Bref, ils ont été détruits. Ils ont été détruits à la suite, comme ça, de cette. Ils ont été pris en tenaille, si je puis dire, entre un totalitarisme, le totalitarisme stalinien, et l'autre, le totalitarisme nazi, et puis ça les a détruits. Ils ont été en quelque sorte volatilisés. Et j'ai voulu justement lutter contre cet oubli, ce silence, l'indifférence. D'ailleurs, je trouve que c'est une belle définition de l'histoire. Faire de l'histoire, c'est lutter contre le silence et essayer de rappeler les gens dont la vie s'est éteinte, dont la vie a passé, et qui ne sont plus là pour raconter ce qu'ils ont vécu de bonheur et de peine. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre Histoire
des
grands-parents.
Après avoir fait une énorme enquête qui vous a conduit en Pologne, qui vous a conduit même en Argentine, qui vous a conduit un petit peu partout. Vous avez raconté cette histoire. Vous dites, je crois que je suis devenu écrivain pour faire ce genre de découverte, pour écrire ces histoires-là.
Je suis probablement devenu historien pour raconter leur histoire, et puis plus largement l'histoire d'autres anonymes comme Laetitia. Et je suis historien pour réparer le monde, c'est-à-dire essayer de lutter contre ces injustices. Par exemple, le fait d'avoir été assassiné à 28 ou 35 ans comme mes grands-parents, ou 18 ans comme Laetitia. Alors réparer le monde, pour moi, ça se fait pas avec des lois et une forme de militantisme politique. Ça, je sais que c'est important, mais je le laisse à d'autres plus talentueux que moi. Pour moi, réparer le monde, c'est mettre de la voix et de la littérature sur le silence. Et quand je dis littérature, vous aurez bien compris que je ne parle pas de fiction. Ma littérature, c'est une littérature du réel. Ce sont des textes qui disent vrai parce qu'ils sont fondés sur des preuves.
Alors, ces grands-parents qui ont été déportés à Auschwitz, ils ont laissé derrière eux deux enfants, votre père, né en 1940, sa sœur, née en 1939, des enfants qui ont été cachés d'abord, et puis qui ensuite eh bien, ont grandi dans des orphelinats. Et c'est évidemment pas par hasard, Yvan Jablonka, que vous vous intéressez aux enfants placés, aux enfants qui grandissent en orphelinat.
C'est évidemment pas un hasard, mais figurez-vous que j'ai mis pas mal de temps à m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'ai fait cette thèse d'histoire sur les enfants de l'assistance publique, et puis quand j'ai dédié ce livre, le livre que j'ai publié, quand je l'ai dédié à mon père, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Puis en fait, je me suis dit que voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, et certainement pas dans le choix des sujets quand on est historien ou sociologue comme moi. Voilà, donc j'ai voulu réfléchir sur les enfants sans famille, entre guillemets, même si bien sûr mon père en a une, ces enfants sans famille, c'est-à-dire des enfants abandonnés, et ça m'a tout de suite fait réfléchir aussi sur la condition des femmes, c'est-à-dire les mères qui abandonnaient dans des conditions dramatiques leurs enfants, parce que souvent elles y étaient forcées par la honte, par la misère, et donc travailler sur les enfants abandonnés, ça m'a fait réfléchir à ce qu'on peut appeler la misogynie d'État, au XIXe siècle. Et il y a quelque chose qui est tragique dans l'histoire française, c'est que notre belle révolution de 1789 ou 1793 a accouché d'un siècle intégralement misogyne, le XIXe siècle, avec le maintien des privilèges masculins et même une forme de despotisme marital au sein de la famille. C'est le code civil de Napoléon en 1804, c'est l'interdiction pour les femmes de divorcer à partir de 1816, et puis c'est aussi un des grands scandales de notre modernité politique. En 1848, la France accorde le suffrage universel masculin.
Évidemment. Donc on voit comment finalement toute votre histoire explique ce cheminement, Yvan Jablonka. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de Simone Veil, parce que vous la citez dans votre dernier livre. Vous dites que vous l'avez rencontrée au début des années 2000, quand elle était présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Elle avait 75 ans, je n'en avais pas 30. Cette femme d'exception, orpheline de ses deux parents, fait pour moi le lien entre Auschwitz, l'intégration des Juifs et le féminisme.
Oui, j'ai eu la chance de travailler pour Simone Veil, puisque j'écrivais ses discours à l'époque où elle était présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc je l'ai rencontrée plusieurs fois. C'était une femme rigoureuse, qui pouvait être parfois dure dans les relations de travail, mais c'était en même temps pour moi, voilà, c'était un symbole, c'était bien plus que ma grand-mère. Enfin, voilà, j'en parle toujours avec émotion parce que c'était une femme exceptionnelle, c'était une femme d'un courage extraordinaire. Voilà, tout le monde sait ce qu'elle a vécu à Auschwitz, mais il faut revoir aussi les débats à l'Assemblée en 1974 lors du débat sur l'IVG avec ces injures odieuses.
Ça nous paraît très lointain, hein.
Ça nous paraît très lointain. Mais en même temps, voilà, avec quel honneur et quel courage elle a répondu à ces injures qui étaient à la fois des injures misogynes et antisémites. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour elle. C'est un privilège pour moi que d'avoir travaillé pour elle.
Certainement. Il est 18h53 sur France Inter, Yvan Jablonka. On a une rubrique qui s'appelle Les Bonnes Ondes dans cette émission. C'est à cette heure-ci tous les vendredis et c'est fait pour nous redonner le sourire. Alors on va voir si ça marche à tous les coups. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir on s'intéresse à une initiative dont on a parlé jusqu'à l'étranger, celle de Freddy Riffaut, le maire d'Essart en Bocage en Vendée. Il a publié un arrêté municipal demandant à ses administrés d'être en joie et de sourire chaque jour de 8h à 22h pendant la semaine du 5 au 11 octobre. Vous êtes donc allée sur place, Sandrine, pour voir ce que cela donnait.
Oui, parce que moi, je trouve que cet arrêté est absolument génial. On fait tous la tronche. Dans les transports en commun, regardez la tête de votre voisin de banquette, au supermarché, celle de la cliente d'à côté qui pense forcément que vous l'avez doublé dans la file. Dans les embouteillages, c'est pareil, c'est pas joyeux. Alors certes, la vie est dure, certes, on a tous des soucis. Maintenant, est-ce qu'il faut tous avoir des têtes de train fantôme pour autant? Eh bien non, c'est en gros ce que dit le maire des Sarambocages.
Alors ça marche ou pas?
Coussi coussa, hein, c'est pas gagné-gagné.
C'est-à-dire?
Certains ont pris l'arrêté au premier degré, donc forcément ça ne passe pas, et d'autres jouent le jeu, vous allez voir.
Alors direction Essart en Bocage, c'est près de La Roche-sur-Yon. Quand vous êtes arrivé sur place Sandrine, le temps était plus que maussade.
Nous sommes lundi, il pleut, personne dans les rues, il est 10h, on dirait qu'il en est 18. Allez, on pousse la porte de ce bar PMU, ça sourit ou pas? Alors, cet arrêté de monsieur le maire.
Son arrêté, je m'en tape.
Son arrêté, je m'en tape, carrément.
Carrément.
Et ça veut dire quoi, son arrêté, je m'en tape?
Bah, je m'en tape, je m'en fous. J'ai pas attendu la semaine du mois d'octobre 2019 pour faire des sourires à mes clients.
Mais c'est quand même une bonne idée, non?
Bah, tout le monde ne partage pas. Peut-être à l'approche des élections, c'est peut-être se faire remarquer, comme il a rien fait depuis 4 ans, il s'est dit, on va faire de la pub, on va se montrer, voilà.
Vous trouvez ça quoi? Quel mot vous mettriez?
Nul. Nul.
Vous trouvez ça sympa?
Ben oui, faut jouer le jeu. Ça change un peu.
Ça sert à quoi de critiquer?
Moi, ça me fait rire, moi.
Vraiment, monsieur?
Non, je vous le jure, c'est... Moi, j'étais cherché du tabac, bon, je connais bien le gars là-bas, et que, enfin, il est fermé aujourd'hui. Mais je l'ai regardé, j'ai fait « Ah !» L'autre « Oh !» Simplement ça faisait rire les autres qui étaient au bar.
Ah oui, après ça ricochait, quoi.
Ben oui, mais les autres rigolaient tous.
Qu'est-ce que vous êtes, vous?
Moi, je travaille à France Inter, madame.
Ah oui, à la télé, qu'on vous voit, là?
Ah non, mais France Inter, c'est la radio.
Ah oui, c'est la radio, oui.
Est-ce que vous avez envie de sourire aujourd'hui?
Oh, faut bien, parce qu'avec tous les problèmes, je rigole quand même.
Parce que vous avez tellement de problèmes que...
Ouais.
L'arrêté du maire, c'est sympathique.
Ben oui, c'est pas mal. Déjà, la météo est pas top aujourd'hui.
Ah, ça, c'est sûr, hein.
Ouais, faut rire.
Faut pas faire la gueule, ça sert à rien.
Il y a de la joie.
Et ben voilà, c'est exactement le message du maire. Ne prenez pas cet arrêté au premier degré, s'il vous plaît.
Inciter les gens à avoir la banane, ça fait du bien. Quand on se lève le matin, on a tous des difficultés, on a tous des très bonnes raisons d'être à l'opposé de ça et d'être dans l'amorosité, dans le négatif, dans le pessimisme. On a créé ça justement pour se forcer à voir la vie autrement et du bon côté. À l'inverse, j'ai bien peur qu'on s'enfonce. Alors après, je connais votre question d'après, mais je vais attendre que vous me la posiez.
Oui, le 12, fais la gueule.
C'est bien ça. Et donc le 12, on va surtout pas s'arrêter. On va pas dire non plus qu'on va prolonger, mais on est en train de réfléchir à la création d'un label.
Comme il y a des concours de village fleuri.
Bien, c'est ça. En tout cas, tous ceux qui veulent bien se marrer, eh ben, je pense qu'on a quelque chose à faire pour développer ça autour de nous.
Salon de toilettage pour chiens, pas convaincu.
Moi, non.
Pourtant, vous avez mis les petites affiches là sur votre...
Bah, je les ai mis parce qu'on me les a données.
Donc, vous trouvez ça quoi?
C'est inutile. Si on fait la gueule, on fait la gueule, quoi. C'est pas parce que c'est la semaine de la joie qu'il faut être joyeux alors qu'on l'est pas.
C'est quoi? C'est de se dire, allez, top chrono, on sourit, et après on arrête de sourire. C'est qu'est-ce qui vous dérange?
Bah, c'est le fait d'obliger les gens à sourire de 8h à 22h. Enfin, c'est pas possible.
Enfin, c'est symbolique.
Ouais.
Vous n'adhérez pas, quoi?
Moi, non. Deux cafés?
Eux, si. Les patrons du Bon Accueil, le petit resto du centre-bourg.
Ça, c'est le dessert qui vous donne la banane. C'est une banane rôtie qui fait la bouche. Deux petits fondants au chocolat pour faire les yeux. Un petit fond de crème anglaise maison pour faire le visage jaune. Et voilà.
Ça fait du bien, Yannick, ou pas?
Ah oui. Parce que quand vous allumez votre téléviseur le soir à 20h, vous regardez les informations, c'est pas tous les jours rigolo. Hein. Et ben moi, je dis que si on avait une semaine nationale à rigoler, franchement... Ça serait bien.
Cette semaine-là, elle est particulière. Même s'il pleut à l'extérieur, on sent les gens arriver avec une autre humeur, un autre état d'esprit, on va dire. Ils sont joyeux.
Et vous le sentez vraiment, ça, madame?
Ah, vraiment.
Ça veut dire que ça marche?
Ça veut dire que ça marche. Et en fait, bah oui, on repousse le temps d'hiver, on repousse le côté maussade. Ce qui va pas, eh ben, on le laisse au tiroir. C'est génial. Et on se fait du bien en étant heureux.
Vous vivez dans quel monde? Les bisounours?
Non, du tout. On a notre lot de soucis, de factures, de tout ce qui va avec. Mais au contraire, il faut positiver. On garde que ce qu'il y a de bon.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup, Sandrine, pour ce reportage. C'est pas gagné hein, quand on demande aux gens de sourire. Yvan Jablonka, ça m'a fait penser à cette injonction de votre père lors de vos vacances en camping-car. Soyez heureux. Hein. Quand les gamins se mettaient à jouer aux cartes au lieu de regarder le beau paysage. Hein.
Il voulait qu'on soit heureux et je crois qu'on l'était. C'est pour ça que ces vacances sont pour moi nimbées de soleil et de lumière. Et puis plus largement, voilà cette idée de bonheur, j'ai essayé de la décliner dans mon livre Des hommes justes parce que la justice de genre, l'égalité, ben, je crois que ça contribue au bonheur individuel et collectif.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est passé très vite, hein, ces trois quarts d'heure, Yvan Jablonka. On aurait pu parler aussi du site La Vie des Idées, de cette collection La Vie des Idées au Seuil que vous avez cofondée avec Pierre Rosanvallon. En 10 secondes, à quoi ça ressemble une journée d'Yvan Jablonka?
Parfois j'ai cours, parfois j'écris mes livres, parfois j'aide d'autres à écrire leurs livres. Alors voilà, je suis à la fois prof, auteur, éditeur et je suis très heureux comme ça.
Voilà, ça fait des journées bien remplies. Un très grand merci Yvan Jablonka d'être venu ce soir. Je renvoie donc
merci
à votre dernier livre, « Des hommes justes » publié au Seuil. Dans quelques instants, le journal de 19h de Sébastien Paour. À 19h20, le téléphone sonne sera consacré au diagnostic, au dépistage et à la prévention du cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme, le plus mortel aussi. Le standard attend vos appels au 01 45 24 7000. Et puis, une pensée pour terminer cette émission. Pensée pour notre consoeur Annette Ardisson qui vient de nous quitter. Elle s'en est allée un jour où le Parlement européen a fait la une de l'actualité, ce qui est un vrai pied de nez. Elle qui avait permis à bon nombre d'entre nous de se former aux questions européennes. Elle nous avait fait découvrir les institutions de l'Union grâce à des stages dans les différents lieux où elle siège. Annette croyait à la construction européenne et à la nécessité absolue pour les journalistes de connaître le fonctionnement parfois complexe de l'Union afin de donner une information rigoureuse sur ces sujets et de ne pas dire n'importe quoi. Ça nous sert tous les jours, qu'elle en soit remerciée. Vous avez entendu qu'il était 19h sur France Inter.